L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous plongeons aujourd'hui au cœur du Colorado, un état des États-Unis qui vit au rythme que lui imposent les saisons et les conditions climatiques. Il règne comme un parfum d'étrangeté à l'entrée du parc national des Rocheuses. 333, avenue Wonderview, Estes Park. C'est l'adresse précise d'un édifice géant qui se dresse depuis 1909 entre les voyageurs et les montagnes. Il abrite une multitude de chambres, de couloirs, de salles en tout genre et d'ascenseurs. Bienvenue au Stanley Hotel, qui, en ce 28 octobre 1974, ferme ses portes pour les longs mois d'hiver à venir. Pas toujours simple de travailler là où la neige recouvre tout et où le manteau blanc si prisé des enfants finit par devenir une terrifiante vision. Alors qu'un flot ininterrompu de voitures descend la colline en quête de civilisation, une seule voiture, elle, la monte et s'arrête sur le parking vide de l'hôtel. Un couple en sort et s'avance afin de réserver une chambre pour la nuit. Ah, une chose est sûre, ils ne sont pas prêts d'oublier cette expérience. Il est 16h50, ce 28 octobre 1974, et c'est l'heure H de mon histoire. Drôle d'effet que la réception vide d'un grand hôtel. D'autant plus quand il est sur le point de fermer. L'écrivain Stephen King et son épouse, les bras chargés de valises, attendent déjà depuis plus de 5 minutes que l'on vienne les enregistrer. Déjà, l'imagination de l'auteur s'imprègne de ce lieu aux odeurs et à l'atmosphère si particulière. Il a comme une connexion irrationnelle avec chaque endroit qu'il inspire. King, comme dit sa femme, c'est l'écrivain qui a besoin d'écrire pour vivre. Un peu comme une deuxième manière de respirer. Depuis plusieurs années déjà, l'artiste est un auteur à succès et il n'a jamais dévié d'un iota de son process. Il rédige en moyenne 6 pages par jour, tous les jours. Rien ni personne ne peut l'en détourner. Trois ou quatre heures à son poste de travail, généralement tôt le matin, et c'est parti pour 6 pages. Sa productivité est tout bonnement géniale. En moyenne, un ouvrage paraît tous les 2 mois. Alors qu'ils contemplent tous deux les boiseries du grand escalier et la moquette de mauvais goût au sol, un homme, enfin, se présente à eux. Il est pâle comme la mort. Oh, il n'a rien d'accueillant. Il ressemble à ces vampires de Marston House, tout droit sortis de Salem. Jérusalem Slott, lieu de l'action de ce roman, n'est jamais loin. Il n'a pas encore publié ce roman. Il le fera dans quelques mois. Mais l'écrire l'a fait frissonner. Sans s'excuser de les avoir fait attendre et sans aucun mot de bienvenue, l'homme en face d'eux, fin, sec, au regard noir, les conduit à leur chambre. La chambre 217. Sa femme qui, il y a quelques minutes encore, râlait vivement, s'est tue. Lui aussi se sent aussitôt envahi d'un sentiment qui l'oblige à rester sur ses gardes. La chambre, somme toute classique, dégage une ambiance qui lui est propre. Certes, il écrit sur les fantômes depuis déjà un petit moment, mais les esprits, pourtant, lui, il n'y croit guère. Mais là, nom de nom, il se passe quelque chose dans cette chambre. Le bois du couloir craque à chaque mot feutré que les époux King échangent sur la possibilité de repartir ou non. On pourrait croire qu'un invité surprise se cache, là, juste derrière la porte. La chambre 217, leur avait glissé le réceptionniste, cousin éloigné de Dracula, était réputée pour être hantée. Oh, ils pouvaient leur en donner une autre, si la perspective les effrayait, car de toute façon, ils étaient les seuls hôtes ce soir. Son épouse s'était alors saisie. Comment ça, les seuls ? Pas une autre seule chambre n'était occupée. Le réceptionniste avait secoué la tête. Non ? Non, non, Madame King, pas une autre âme qui vive que la vôtre cette nuit. Frisson garanti. Le couple, qui n'a pas faim, mais qui a réservé pour le dîner du soir, se rend moins de 2 heures plus tard dans la salle de réception. Vide, elle aussi. Un serveur, qui les regarde en coin, comme s'il n'était qu'un élément de plus dans le décor, les installe tout près de la cheminée, surmontée d'un drapeau américain. Certaines des ampoules au plafond sont grillées. Les poutres, au-dessus de leur tête, craquent au moindre coup de vent qui, dehors, se lève. Alors autant vous dire que leur steak est vite expédié et qu'ils remontent dans leur chambre, la fameuse chambre 217. Et alors que sa femme s'endort, Stephen King, lui, ne trouve pas le sommeil. Il se décide à tenter une sortie nocturne pour visiter l'hôtel. Alors, vous pensez qu'il est fou ? Attendez d'entendre la suite. De longs couloirs sans fenêtres, des portes fermées et l'absence de vie à chaque étage se fait ressentir. Quand les minuteries s'éteignent, même lui, la star du paranormal, appuie sur le premier interrupteur pour ne pas rester dans le noir. Puis, après quelques frissons, il se décide à descendre au bar pour y boire un whisky, sans glace. Là, il est accueilli par le barman de service qui, son client, est là pour chasser le vent. Seul le titre « Treat Her Right », cuivre sonnant et guitare solo, donne à la situation un semblant de réalité. Tout le reste est étrange. Surtout, le regard de ce barman, au nom particulier, Grady. King a l'évocation des deux syllabes, décide du nom de l'un de ses personnages principaux. Parce que oui, déjà. Et avant même la fin de cette nuit hors du temps, il sait qu'il va écrire sur cet endroit. Nous y reviendrons. King avale son whisky, discute philosophie de vie et fin de saison touristique avec ce Grady au ton monocorde et à l'allure des plus bizarres. King dira plus tard de lui qu'il ressemblait à un homme qui aurait tué sa famille à coups de hache. Il regagne ensuite sa chambre. Sur le chemin du retour, à la sortie de l'ascenseur qui le conduit au deuxième étage, il est persuadé de voir un petit garçon marinière, là au fond de l'immense couloir. Pourtant, il se souvient que le réceptionniste leur a dit à leur arrivée qu'ils étaient les seuls clients. Alors, est-ce le fils d'un employé qui traîne à cette heure-là le regardant fixement ? Un mauvais tour joué par les équipes, peut-être. Il ignore ce qu'il se passe, mais ce qu'il sait, c'est que ses mains tremblent, de manière irrépressible. Il regagne à toute vitesse sa chambre, plongé dans l'obscurité. Sa femme dort déjà. Et sous la surveillance des ombres, il se couche et les draps ramenés sous le nez s'endort. Cette nuit-là, l'auteur vécut le cauchemar le plus prenant de toute son existence. Dans la peau de son jeune fils de 3 ans resté dans le Maine, il se voit fuir dans les couloirs de l'hôtel, poursuivi par une lance à incendie. Stephen King se réveille en sursaut, en sueur, à 2 doigts de tomber du lit et de se fracasser sur le parquet froid de cet endroit décidément particulier. Il a de la fièvre. Il croit délirer alors même qu'il est bien réveillé. Il se perd dans les méandres de son esprit. Alors, il se décide à se lever et va prendre une douche. La nuit se termine ainsi. Sa femme dormant encore du sommeil du juste. Il se penche à la fenêtre comme une vigie attendrait l'arrivée d'un ennemi qu'elle ne peut voir. Les yeux cernés de fatigue et d'angoisse, Stephen King salue à peine le réceptionniste en partant et les époux reprennent leur véhicule. À peine sont-ils sortis du domaine que la chape de plomb qui pesait sur eux depuis la veille les quitte comme par magie. L'auteur ne dira pas un mot de tout le trajet retour. Dans sa tête pointent déjà les tenants et aboutissants de son scénario machiavélique. Le petit garçon dans le couloir, la chambre, le barman. Le Stanley Hotel vient de se racheter une célébrité et portera désormais le nom terrifiant, ancré dans toutes les mémoires de Shining. Vous vous en doutez, l'histoire de l'hôtel Stanley n'a pas débuté lors de cette fameuse nuit d'horreur vécue par Stephen King, non. Leur hache démarre bien des années plus tôt, en 1903, pour être précis. Nous sommes dans un cabinet médical américain, en plein cœur de l'automne. Les feuilles rouges des érables et des hêtres se décrochent des branches et viennent mourir, inlassablement, sur le sol humide de la ville de Kingfield, dans l'état du Maine. Une célébrité locale, enfin que dis-je, mondiale, vit ici depuis sa naissance. Il connaît ses rues par cœur, les maisons les plus grandes, les familles les plus miséreuses et les malades aussi. Le quinquagénaire attend son médecin, mais il ne se fait guère de doute quant à son diagnostic. Il est connu, c'est la tuberculose. L'épidémie frappe l'état du Maine. Une résurgence mortelle. Effectivement, alors que notre homme, qui s'appelle Freelan Oscar Stanley, regarde les premières gouttes de pluie s'écraser sur les vitres du cabinet, le docteur, lui, annonce la mauvaise nouvelle. Notre héros du jour, croyez-le bien, n'a rien de banal. C'est lui qui inventera la voiture à vapeur. Oh, il ne l'a pas encore fait en 1903, mais bientôt, l'idée germera dans son esprit. Son médecin était clair. Il doit quitter le Maine. Aller respirer le grand air s'il espère guérir. Il lui faut une atmosphère sèche, une alimentation saine et copieuse. Freelan doit donc trouver une solution rapide. Il en va de sa survie. Une région géographique est tout indiquée dans le pays, les Rocheuses. Cette chaîne de montagnes immense s'étend de l'ouest du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique. 3000 miles en ligne directe, des paysages magnifiques et une véritable bénédiction pour ceux qui recherchent un air prétendument miraculeux. Les Rocky Mountains, comme on les appelle dans le pays, voilà donc la destination des époux Stanley. Mais pourquoi faire ? Se reposer sans rien faire ? Ah non, c'est hors de question pour ce barbu qui est un bourreau de travail depuis déjà des années. Durant l'été 1903, les époux s'exilent donc dans le Colorado pour favoriser la guérison de Freelan Stanley. Lui va tenter de mettre au point ses inventions sur place, tombe amoureux de la vallée et se remet petit à petit. Reconnaissant de la magie de cet endroit, il décide avec sa femme d'y retourner année après année pour continuer ce processus de guérison. 4 saisons plus tard, au début du mois de juin de l'année 1907, voilà le couple de retour dans les Rocheuses, toujours à Estes Park, Colorado. Mais cette fois, le couple a une idée précise en tête. Ils veulent faire construire un hôtel pour s'ancrer durablement dans cette zone géographique pour eux si particulière. Et puisqu'il a lui-même eu la chance de guérir ici lorsqu'il était malade, Stanley décide de bâtir une station balnéaire qui deviendra à terme la plus importante de la grande chaîne montagneuse. C'est le début de la construction de l'hôtel Stanley. 48 chambres réparties sur plusieurs niveaux qui accueilleront des clients issus d'un milieu social pas nécessairement aisé. Certains l'informent que le terrain est situé sur un ancien cimetière indien, mais Stanley, lui, ne prête aucune importance à ces avertissements. Voilà donc comment, en quelques mois seulement, sort de terre le magnifique édifice qui sera totalement terminé au début de l'année 1910. Non loin de là, la ville de Lyons développe son réseau de chemins de fer, ce qui sera très vite un avantage pour faciliter l'arrivée des malades. Et, si vous me permettez le jeu de mots, tout roule donc sur les rails. La première saison, 1910, se passe à merveille. Les soins prodigués sont de bonne qualité. À l'approche de l'hiver et en prévision de la neige, toujours au rendez-vous en cette saison dans le Colorado, une fermeture annuelle de quelques mois est décidée. Cette habitude, inhérente aux caprices de la météo, sera reconduite d'année en année. Elle sera d'application jusqu'en 1983. La première année, donc, tout se passe pour le mieux et personne ne se plaint de rien. C'est en 1911 que le tout premier événement tragique de l'hôtel Stanley arrive, d'une manière totalement inattendue. Il a lieu dans la chambre 217. Elizabeth Wilson est une femme de chambre particulière. Certains clients racontent qu'elle pose parfois les valises des hôtes qu'elle n'aime pas devant leur porte, ou encore qu'elle ne se prive pas de déranger les couples illégitimes qui viennent se réfugier à l'hôtel Stanley. Mais en ce jour du 25 juin 1911, la donne est différente. Les clients de la chambre 217 sont des habitués et Elizabeth est en train de vider le contenu de leurs sacs de voyage et les installer dans les penderies. Elle sifflote du Schubert, son compositeur préféré. Et tout va bien. Il fait chaud, il fait beau, tout semble parfait. L'électricité tourne à plein régime. Monsieur Stanley, lui, a d'ailleurs signalé que c'était le seul hôtel du monde qui est entièrement équipé à l'électricité. Ici, les bougies et les chandeliers sont purement décoratifs. Bon. Ce que l'inventeur a omis de lui dire, c'est que cette année, le propriétaire de l'hôtel a décidé d'installer un système alternatif, le chauffage au gaz. En effet, devant le manque de matières premières, il est impossible de garantir, toujours selon les conditions régionales, un bon approvisionnement. Les cuves ont été remplies le 24 juin, la veille de cette belle journée ensoleillée. Voilà que les affaires du couple, bien pliées, se trouvent rangées comme il le faut. Elizabeth Wilson, fière de son travail du jour, range les valises sous le lit conjugal et se retrouve soudain propulsée un étage en dessous, les deux chevilles brisées, la tête en sang, les tympans explosés. Elle n'a rien senti venir, ni rien entendu, si ce n'est un violent boum venu la percuter dans le dos. Le sang qui jaillit de ses plaies se répand sur le parquet en bois et, dans une ultime pensée irrationnelle, elle se maudit de faire des dégâts, elle qui est si attachée à son travail. La salle de restaurant attenante et une partie des chambres aussi ont explosé. Grièvement blessée, touchée au plus profond de sa chair, la femme de ménage attendra de longues minutes les secours qui vont mettre du temps à arriver. C'est l'inconvénient dans les Rocheuses. Le climat y est vivifiant, certes, mais c'est loin de tout. Sept autres employés, des serveurs du restaurant, sont touchés par le souffle de l'explosion, mais sans gravité. Le miracle, dans ce malheur, est que personne ne meurt, mais une partie de l'hôtel est tout bonnement anéantie. Ce sont 500 000 dollars foutus en l'air. C'est à partir de cet épisode que Stanley, qui voyait ça comme un passe-temps, commence à se rendre à l'évidence. Il va perdre plus d'argent qu'il va en gagner avec cet hôtel. Des clients commencent déjà à dire que des fantômes viennent les déranger, y compris dans la fameuse chambre 217, l'épicentre d'une explosion accidentelle. La suite de la vie de l'hôtel sera quelque peu différente et néanmoins mouvementée. En 1926, lassé, le propriétaire le revend à une société privée constituée spécialement pour le maintenir à flot, mais qui va échouer et faire faillite quelques années plus tard. Stanley le rachète pour le sauver et le revend dans la foulée, en 1930 cette fois. Le bâtisseur-inventeur, lui, est resté un amoureux de la région. Toujours reconnaissant de cette guérison miraculeuse, il va se battre de nombreuses années pour obtenir que les Rocheuses deviennent un parc national. C'est chose faite en 1915. Après l'invention et le dépôt du brevet de la voiture à vapeur, Stanley passera beaucoup de temps à la belle saison dans ces régions du Nord. Mieux encore, il finit par y emménager à Newton, dans le Massachusetts. Il y mourra d'une crise cardiaque à l'âge canonique de 91 ans en 1940, un an après sa femme qui s'éteignit dans la même propriété. L'hôtel Stanley, lui, trône encore dans les rocheuses et vivote au rythme des saisons. C'est un cinéaste qui, plus encore que l'écrivain Stephen King, lui donnera ses lettres de noblesse dans l'univers de l'horreur en 1980. Stanley Kubrick, génie du 7e art, décide de s'emparer du phénomène pour en faire un chef-d'œuvre. Nous sommes en novembre 2016, sur un plateau de télévision américain. Un talk show, pour être plus exact. Celui du Dr Phil. Et aujourd'hui, son invité va défrayer la chronique. Personne ne l'a vue depuis longtemps. Elle s'appelle Shelley Duvall. Ça ne vous dit rien ? Elle est l'actrice principale du chef-d'œuvre Shining. Oh, elle a vieilli, certes, mais elle semble en plus de tout ça fatiguée. Non, disons plutôt perturbée. L'interview va le mettre en lumière de la pire des manières. Tellement choquant que la plupart des téléspectateurs vont en vouloir à la production, à la chaîne et ce qui va avec. Les plaintes affluent. Il faut dire que ce qu'il vient de se passer est particulier. Comme si le docteur Phil connaissait parfaitement les failles qu'il pouvait exploiter, il lui parle du film qui l'a rendu célèbre. Ce à quoi elle répond que c'est celui qui l'a traumatisé. L'air de rien, alors qu'il sait très bien pourquoi. Il lui demande des précisions. L'actrice se retrouve alors comme plongée dans un autre monde qui galope autour d'elle, qui lui fait tourner la tête et la prend au piège. Elle évoque la scène de la hache, la fameuse, sans même regarder son interlocuteur. Perdue, elle balance l'impensable. Kubrick l'a brisée mentalement pour la rendre aussi fragile que son personnage. Vous qui avez vu Shining une fois dans votre vie, vous connaissez la scène de la hache, celle où Jack Nicholson devient totalement timbré à cause de la folie propagée dans cet hôtel. Certes, l'établissement a été renommé l'Overlook, mais personne n'est dupe. L'inspiration est réelle. Pour en revenir à nos moutons, cette scène de la hache, l'actrice a été contrainte de la rejouer des centaines de fois, du matin au soir, pendant des semaines. Pourquoi ? Juste parce que Kubrick voulait voir la terreur se lire sur son visage et dans son regard. Pas une terreur feinte, non. Pas jouée non plus. Non, la vraie, celle du fond de l'âme, qui se perd entre réalité et fiction. 40 ans après les faits, l'actrice n'a jamais pu reprendre une vie normale. Elle a vrillé, totalement. Son esprit s'est envolé avec les légendes et les contes de notre enfance. Plus loin dans l'interview, elle reconnaît avoir été agressée par le shérif de Nottingham, ouais, celui de Robin des Bois. Un personnage de fiction au cœur de l'imaginaire d'un auteur. Certainement pas quelqu'un de réel. Juste avant la fin de ce moment lunaire, elle annonce avoir passé un après-midi avec l'acteur Robin Williams, l'un des plus célèbres acteurs d'Amérique, qui était un de ses amis. Était, oui. Il est mort. Il s'est suicidé en 2014, soit 2 ans avant l'interview dont je suis en train de vous parler. Oui, Shelley est devenue fragile, fébrile, c'est incontestable. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ? La malédiction du Stanley Hotel s'est-elle transposée sur ce tournage dont certains murmurent que lui aussi fut maudit ? Bien, vous allez le voir, décidément. Tout ce qui touche à l'établissement du Colorado est bien sombre. Le tournage de cette super production commence le 1er mai 1978 et se termine en avril suivant. 11 mois. 11 mois, c'est long. Stanley Kubrick, qui a déjà exploré le thème de la démence, se sert de l'œuvre de King pour s'engouffrer de nouveau dans les méandres de l'esprit humain. à la manière de son personnage principal qui devient fou à chaque nouvelle scène, le réalisateur se laisse pousser la barbe et les cheveux. Il se promène dans les studios, invective les gens, passe presque pour un sans-abri. Ses acteurs en viennent à avoir peur de lui, de cette quête de la perfection poussée à un extrême jamais atteint jusque-là. Tout comme la scène de l'attaque à la hache, celle de l'affrontement dans l'escalier principal de l'hôtel va demander, tenez-vous bien, près de 90 prises réparties sur 3 semaines de tournage. Une véritable folie. Le choix des acteurs n'est bien entendu pas laissé au hasard. Jack Nicholson, au moment du tournage, est l'un des meilleurs acteurs du microcosme hollywoodien. Il devient, grâce à ce rôle, le mieux payé. Carton plein. Même si l'acteur se plaint lui aussi de gêne durant le tournage et de présence parasite. Mais il refuse d'en parler. Pour le rôle principal féminin, Shelley Duvall est le premier choix de Kubrick. Il a vu tous ses films précédents. Elle est pourtant aux antipodes du personnage développé par King dans son intrigue. À l'inverse d'un personnage fort, sûr d'elle, de ses capacités et de son couple, le grand Stanley Kubrick opte pour une femme perturbée, angoissée tout le long de l'intrigue, et va donc manipuler son actrice en ce sens, comme nous l'avons déjà vu. Je vous laisse imaginer l'ambiance qui règne au sein d'une telle production. Tension, répétition de scènes, jusqu'à la surcharge émotionnelle et physique. Rien de très sain, vous en conviendrez. Malgré ses péripéties, le film est l'un des plus gros succès du box-office en 1980. Un budget de départ élevé de 19 millions de dollars aurait pu en décourager plus d'un. Mais des recettes, qui ont été estimées à 44 millions de dollars, offrent une rentabilité du film de près de 232%. En France, c'est plus de 2,3 millions d'entrées qui sont recensées. Pourtant, une polémique éclate. Non pas en lien avec le film lui-même, mais avec Stephen King, le père de l'œuvre écrite. Si le spectateur apprécie le film, l'auteur qu'il est, lui, est particulièrement énervé du résultat, qui est, il faut le dire, très loin de ce qu'il a voulu développer. Les différences sont nombreuses. Oh, loin de moi l'idée d'être exhaustif sur le sujet. Voici pour vous quelques exemples. Nous avons déjà parlé de l'interprétation du personnage principal féminin. Dans le film, la maladie mentale du mari semble omniprésente, alors que dans le roman, ce sont bien les esprits qui le tourmentent. Le numéro de la chambre, lui aussi, change. Passe du 217 dans le roman au 237 dans le film. Le personnage de Shelley est aussi victime d'apparitions fantomatiques à la fin du film. Dans le livre, elle n'en voyait aucun. Jack Nicholson tue le cuisinier à coups de hache, alors qu'il n'est qu'assommé dans le livre. L'œuvre de King également fait la part belle à une attaque de guêpes qui sont présentes toute une partie du livre. Pas une seule trace de ces insectes dans le film. En bref, l'œuvre filmée est assez loin de ce qui a été voulu à l'origine par l'auteur. King est donc particulièrement courroucé, tellement qu'il refuse d'y être associé et rejette catégoriquement que son nom figure au générique. Pas une seule mention. Pour lui, la principale digression est que la thématique de l'alcoolisme n'a pas la même place dans le film que dans le livre. En effet, alors que l'auteur avoue une portée autobiographique sur le thème de l'abus d'alcool et les effets que cela peut avoir sur la paternité, il est déçu de voir que le personnage principal est déjà fou au début du film. D'autant que la fin est bien différente d'un cas à l'autre. Alors que le livre se termine dans le feu et donc apparaît comme une œuvre chaude, c'est tout le contraire chez Kubrick. La glace est omniprésente, comme un monstre en arrière-plan. En bref, les deux hommes ne sont pas d'accord sur l'intérêt et la portée de Shining. Ils s'opposent donc et ne travailleront plus jamais ensemble. Les lieux du tournage n'ont donc pas, au sens premier du terme, ni porté malheur ou hanté les acteurs et les équipes. Si Jack Nicholson parle bien de présence, c'est plutôt la charge de travail inhumaine qui est responsable. C'est aussi ce qui amène Shelley à perdre les pédales. Une atmosphère de terreur, entretenue savamment par Kubrick, en est à l'origine. Rien de bien paranormal donc, rassurez-vous. Pourtant, le Stanley Hotel ne faisait que vivoter grâce aux curistes, sans réel intérêt pour ce qu'il pouvait représenter depuis le passage de King en 1974. La sortie du film va lui permettre de connaître une nouvelle jeunesse. Ce regain de célébrité fantomatique va y attirer des gens connus, des chasseurs de fantômes et des amateurs d'ufologie, la science des objets volants non identifiés. Le Colorado, d'abord connu pour son grand air favorable, entre autres, aux malades de la tuberculose, va maintenant devenir un véritable terrain de chasse aux esprits, avec, pour grand QG, le Stanley Hotel et son domaine. Mais finalement, tout ce qu'on révèle aujourd'hui comme phénomène dans l'établissement ne serait-il pas que de la poudre aux yeux, un moyen d'attirer les touristes et ceux qui viennent en étant déjà persuadés de vivre l'une des expériences les plus traumatisantes de leur vie? Peut-être. En tous les cas, une immersion dans le Stanley post-années 80 va nous permettre de faire un recensement minutieux de ce qui peut s'y tramer. Et accrochez vos ceintures. Nous plongeons dans les abysses. Nous sommes en 1993. Stanley Hotel, Colorado. L'acteur du masque, le célébrissime Jim Carrey, passe la nuit dans l'établissement alors qu'il est en transit vers le Canada. On lui donne la chambre 217, celle réservée aux invités les plus prestigieux. La fameuse chambre occupée par les King, 20 ans plus tôt. Carrey est un grand comique, mais comme tous les grands humoristes, abrite une part d'ombre importante dans sa personnalité. Les gens les plus joyeux, souvent, cachent leur lot de misère intérieure. Il ne craint pas les esprits et il n'y croit pas du tout. Et pourtant, alors qu'il s'apprête à s'endormir et que les horloges se fondent dans l'obscurité de la nuit, il va s'enfuir, quitter précipitamment les lieux, en courant à travers le couloir de la réception sans même un mot pour les employés, médusé. C'était pas le seul à qui c'est arrivé. Et, comme beaucoup d'autres, l'acteur n'a jamais révélé ce qu'il s'est passé ni dit un mot de cette histoire. Depuis les années 80, le Stanley est donc au cœur de phénomènes paranormaux très importants. Et bien entendu, on joue dessus pour augmenter son attractivité. L'accès se fait toujours via une route sinueuse, qui n'est pas sans rappeler celle du roman, ou bien entendu, celle du film de 1980. Si dans le roman des buis en forme d'animaux attaquent le personnage principal, le personnel de l'hôtel n'est pas allé jusqu'à reproduire l'intégralité de ses mésaventures. Mais vend à destination de ses visiteurs des passes fantômes. Pour une somme pas si modique, chacun repart avec une tasse floquée, un fantôme en plastique et un lecteur de champ magnétique, comme pour partir à la chasse soi-même des esprits du domaine. Alors que ce n'était pas le cas avant la publication du livre, chaque chambre semble maintenant accueillir un esprit qui vient prendre vie durant les nuits. La 228, celle d'un gardien de vache portant un chapeau et qui embrasse les femmes de force. La 418, celle d'un ado farceur qui vient tirer les draps et voler les sous-vêtements de ses locataires. La plus célèbre des chambres reste celle où la femme de ménage, dont nous avons parlé, vient toujours séparer les couples illégitimes et range parfois d'elle-même les affaires. C'est la 217. Elle est plus chère que les autres, bien entendu. Chaque chambre a la même déco un peu vieillotte. Des photos passées, quelques tableaux lambda et surtout, une télé par chambre qui diffuse en boucle, je vous le donne en mille, Shining de Kubrick. Le personnel de l'hôtel, qui connaît les histoires de chaque esprit par cœur, mentionne souvent que la Voie lactée compte moins d'étoiles que le Stanley ne compte de fantômes. Autant vous dire que les chasseurs de spectres sont persuadés d'en avoir pour leur argent. Les matériaux mêmes de l'établissement, du bois en majorité, se prêtent au craquement et au bruit d'hiver. Deux des esprits les plus célèbres de l'hôtel en sont les fondateurs. La femme de Freelan Oscar Stanley est réputée pour venir jouer du piano dans le salon de musique jouxtant la réception. Certains visiteurs arrivent, entendent du Chopin et demandent qui est en train de jouer. Sans mot dire, on les conduit dans la salle où l'instrument joue seul. Frisson garanti. Et encore mieux, les propriétaires actuels ont engagé une médium, Mrs. Vera, qui vit sur place et entraîne les hôtes dans les couloirs. Elle note les zones dans lesquelles les températures sont froides. Pour elle, c'est de l'énergie qui circule et pas des courants d'air. Elle se veut être la mémoire vive des esprits qui se sont réfugiés dans les chambres et les entresols. D'ailleurs, une chasse aux esprits, payante, est organisé tous les jours en fin d'après-midi. Là, tout un tas de tours et de farces sont organisés pour vous faire croire que les esprits sont là, avec vous. Des écrans passent en boucle les images enregistrées des visiteurs précédents, des orbes, des formes, des ronds de lumière, tout y est. Le sous-sol est le lieu où vit une jeune fille de l'époque moderne et dans lequel claquent les portes à tout va. Tout ceci est finalement très américain. C'est néanmoins en totale contradiction avec ce que pense le propriétaire des lieux depuis les années 1990. Il s'appelle Joe Cullen. Et au départ, l'hôtel est loin d'être pour lui une bénédiction. Il nécessite d'urgents besoins de rénovation et Joe n'a pas un sou en poche. Jusqu'en 1997. La hype fantomatique avant cette date, est assez peu présente. Mais à ce moment-là, King prépare sa vengeance sur Kubrick. Il décide de tourner, dans les lieux mêmes de l'établissement du Colorado, sa propre adaptation de son roman dans le cadre d'une mini-série. Il débarque avec une douzaine de semi-remorques, beaucoup de gens à loger et surtout, les poches pleines de sous. Son arrivée est une bénédiction pour Cullen. Lui qui ne croit pas aux fantômes, parle de courant d'air pour les portes qui claquent, de l'âge de l'établissement pour les craquements et du travail du bois. Il vit dans l'hôtel, mais dit n'avoir jamais croisé l'esprit. Le paranormal, très peu pour lui. Il est le roi des anecdotes qui font de l'effet, notamment celle où, alors qu'il se détendait devant un film coquin, il fait une fausse manip et déclenche l'allumage automatique des 66 télés de tout l'hôtel. Le lendemain matin, tous pensent à l'œuvre d'un esprit. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il ne passe pas une semaine sans que, comme Jim Carrey, des visiteurs partent à toute vitesse, sans même y passer la nuit. Le Stanley Hotel, en tous les cas, vit aujourd'hui très convenablement grâce à ce commerce du paranormal et doit remercier chaque jour encore Stephen King et Stanley Kubrick. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation extraite de l'œuvre littéraire de Stephen King. L'auteur à succès, au début de son ouvrage, nous rappelle avec justesse sa volonté de présenter une thématique qui lui tient à cœur. Les ravages que peut avoir l'alcool sur les relations d'un homme, qu'elles soient maritales ou paternelles. Et pourtant, à travers toutes ses expériences, il n'avait pas eu le sentiment d'être un salaud. Au contraire, il se croyait un très brave type. Évidemment, ses accès de colère risquaient de lui attirer un jour de véritables ennuis. Et il aurait intérêt à les maîtriser, ainsi que son faible pour l'alcool. Mais avant d'être alcoolique, il avait été caractériel. Les deux infirmités devaient d'ailleurs se confondre quelque part dans les profondeurs de son être, là où il valait mieux ne pas mettre le nez. Les fantômes, pour une fois chez King, ne sont peut-être que secondaires. Alors, info ou intox, je vous laisse juger et pourquoi pas nous donner votre avis sur l'épineuse question des esprits qui hantent le Stanley Hotel. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.